Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, ravie de vous retrouver pour votre grand journal du soir. Je vous propose, comme chaque jour, un tour complet de l'actualité avec du temps pour écouter, mais aussi pour comprendre ce monde qui change. À la une de l'actualité ce soir, deux enquêtes ouvertes et 668 marins positifs au Covid-19 à bord du porte-avions, le Charles de Gaulle. Les faits, c'est dans un instant dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, l'armée a joué avec notre vie. C'est ce qu'estime un marin. La réponse ce soir sur Europe 1 du capitaine de vaisseau et porte-parole de la Marine nationale, Éric Laveau. Il répond à mes questions dans 20 minutes. 19h30, festival et concerts annulés, livres et films reportés, un coup dur pour bon nombre d'artistes. Josiane Balasco, Bob Sinclair, Eric Orsena et l'humoriste Christelle Cholet seront avec nous en direct. Vous connaissez le programme de ce jeudi soir. On est ensemble, mobilisés une fois encore pour vous informer. Jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On espère vivement que ces enquêtes vont nous permettre de tirer toutes les conclusions, d'avoir en tout cas, de faire la lumière sur les faits tels qu'ils se sont produits.
Le Charles de Gaulle aurait-il dû rentrer plus tôt? Un membre de l'équipage accuse l'armée d'avoir négligé les alertes. Plus d'un tiers des 1700 marins ont contracté le virus à bord.
La pression diminue pour les soignants. Pour la première fois, le nombre de patients à l'hôpital est en baisse. Nous irons dans les Hauts-de-France précisément.
Faut-il maintenir confinés les plus âgés au-delà du 11 mai? Le coup de gueule du généticien Axel Kahn sur Europe 1.
C'est anticonstitutionnel. Si on se mettait à discriminer les personnes fragiles, l'esprit de la loi française est d'aider, d'accompagner les personnes fragiles, pas de les discriminer.
Et on se posera la question, une telle mesure serait-elle légale?
Dans ce journal aussi, le constat inquiétant des médecins, le nombre de récidives montrerait que oui, on peut attraper plusieurs fois le virus. Éclairage nécessaire ce soir avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et puis, information Europe 1, c'est confirmé. Hein. Depuis peu, le paiement sans contact autorisé jusqu'à 50 euros à partir du 11 mai.
Enfin, le héros du jour a 14 ans. Il a transformé sa chambre en usine de masques.
C'est une sorte de serre-tête dessus, donc il y a une feuille plastique transparente de reliure A4 qui va se clipper sur le serre-tête et donc après ça fait une sorte de visière.
Voilà, il en a déjà fabriqué des centaines pour les soignants avec son imprimante 3D.
Et on va regarder la couleur du ciel avec Anissa. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, il a fait beau hein, sur l'ensemble de la France, sauf sur le sud-ouest. Et bien demain, ce mauvais temps va se généraliser pour toucher quasiment la moitié de la France. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Le Charles de Gaulle n'avait pas touché terre depuis le 15 mars. Le Covid s'est répandu à une vitesse folle. 668 marins ont été testés positifs à leur retour à Toulon. C'est un tiers de l'équipage et ce chiffre risque encore de monter puisqu'on attend 30% des résultats. Un soldat est même en réanimation. On ne sait toujours pas comment le coronavirus est entré sur le porte-avions Hélène Terzian, mais un marin accuse l'armée d'avoir tardé à réagir.
Effectivement, ce marin sous couvert d'anonymat a des mots très forts. Il estime que l'armée a joué avec la santé et la vie des membres d'équipage. Ce militaire, qui s'est exprimé dans les médias locaux, assure que le commandant du porte-avions aurait proposé d'interrompre la mission du navire français à Brest lors de sa dernière escale. C'était entre le 13 et 15 mars. Là-bas, certains militaires ont pu descendre du bateau et une relève de 50 personnes est montée à bord. Et à cette époque, explique ce marin anonyme, certains membres d'équipage présentaient déjà des symptômes du virus et la proposition d'interrompre la mission aurait été refusée par le ministère des Armées. Christine Rib, porte-parole de la préfecture maritime de Méditerranée, rappelle en tout cas que tout est fait aujourd'hui pour élucider le mystère autour de cette contamination.
Alors on veut tous savoir, et nous les premiers, c'est pour ça qu'il y a deux enquêtes qui ont été lancées, une enquête épidémiologique qui est dirigée par le service de santé des armées et une enquête de commandement qui a été demandée par le chef d'état-major de la marine. Et on espère vivement que ces enquêtes vont nous permettre de tirer toutes les conclusions, d'avoir en tout cas, de faire la lumière sur les faits tels qu'ils se sont produits.
Ces enquêtes devraient durer plusieurs semaines. Le porte-avions Charles de Gaulle, arrivé dimanche soir à Toulon, est quant à lui en train d'être désinfecté pour qu'il soit opérationnel le plus rapidement possible. Les marins du navire, eux, toujours confinés, poursuivent leur quatorzaine sur plusieurs sites militaires de la région.
Les précisions d'Hélène Terzian et ce soir, un médecin militaire précise qu'aucun cas n'était remonté au niveau de la médecine militaire au moment de l'escale de Brest à la mi-mars.
Alors, toutes ces questions et tant d'autres, on va les poser à Éric Laveau, à 18h20, capitaine de vaisseau et porte-parole de la Marine nationale. Il est mon invité sur Europe 1.
Est-ce l'éclaircie que nous attendons tous depuis une semaine? Maintenant, le nombre de patients en réanimation est en baisse. Mais depuis hier, c'est même le nombre global de personnes hospitalisées qui recule enfin. Une tendance qui se confirme, notamment dans la région des Hauts-de-France, chez vous Lionel Gougelot, où l'épidémie ralentit très nettement.
Oui, effectivement. Et il y a un chiffre qui illustre ce constat, c'est le taux de contagion, c'est-à-dire de reproduction du virus, qui permet de dire combien de personnes sont infectées par un porteur. Quand ce taux est supérieur à 1, l'épidémie progresse. Et dans la région, il a chuté à 0,37, un assez net ralentissement de l'épidémie. Donc, résultat direct du confinement, selon Patrick Goldstein, le patron du SAMU du Nord, qui refuse pourtant de crier victoire.
Les patients qui rentrent aujourd'hui dans nos services d'urgence suspects de Covid ou Covid, il y en a tous les jours. Il y en a moins, mais il y en a. Des patients qui vont aller des urgences en réanimation, il y en a moins, mais il y en a. Il y a certes plus de patients qui sortent que de patients qui rentrent. Donc, soyons clairs, le confinement, ça marche. Et il faut vraiment le tenir.
Alors, autre indicateur, l'occupation des lits en réanimation. Alors, c'est vrai, le CHU de Lille n'a jamais connu de véritable saturation, comme dans la région Grand Est ou en Île-de-France, mais le nombre de patients en réa, environ 90, est en léger recul. Même chose pour les hospitalisations de malades ne nécessitant pas de respirateur. Mais là encore, pas question de baisser la garde, selon Frédéric Boiron, le directeur général du CHU.
Alors, on préfère rester prudent et ne pas encore parler de baisse. Le nombre de lits consacrés par le CHU à l'accueil des patients Covid n'a pas été diminué, pas encore. Mais nous étudions les hypothèses de modification de ce dispositif, notamment en réanimation, compte tenu de la tendance actuelle à la stabilisation de l'activité.
Alors bien sûr, ici comme ailleurs, les spécialistes n'excluent pas un rebond de l'épidémie, mais dans les hôpitaux de la région, on espère d'ici au 11 mai avoir besoin de moitié moins de lits en réanimation, c'est-à-dire 200 à 250 lits contre 400 actuellement.
Voilà, Lionel Gouge, le correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, des chiffres encourageants. Mais attention, hein, l'Europe tout entière est encore dans l'œil du cyclone. C'est la mise en garde aujourd'hui de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé.
On en parle bien entendu dans les grandes voies, votre rendez-vous à 18h30 et on attend les chiffres d'aujourd'hui d'ici 20h. C'est le rituel hein, depuis maintenant un mois.
En revanche, la situation des EHPAD continue d'être très préoccupante. En Île-de-France, l'autorité de santé reconnaît que la quasi-totalité des établissements sont touchés avec au minimum un cas détecté. Il y a 700 EHPAD hein, en région parisienne.
Et les plus âgés, les plus à risque, justement, faudra-t-il les maintenir confinés au-delà du 11 mai? La question, elle se pose, hein, on l'a compris, c'est ce que recommande en tout cas le professeur Delfraissy, qui fait partie de ce conseil scientifique, hein, il conseille le gouvernement, on l'entendait ici même hier soir.
Et selon lui, 18 millions de personnes doivent rester à la maison, dont les plus de 70 ans, et cela déclenche beaucoup de réactions. Écoutez, le coup de gueule d'un autre grand médecin, c'était sur Europe 1 à midi, le généticien Axel Kahn.
Si jamais cela devait aboutir à une mesure administrative faisant que ces personnes au-delà de 65-70 ans, au-delà d'un certain poids, au-delà d'une certaine capacité respiratoire, au-delà d'un certain nombre de mois de grossesse, etc., etc., avaient une amende si elles sortaient de chez elles, ça serait totalement pas possible. C'est anticonstitutionnel, c'est-à-dire que simplement on ne le peut pas. Quand on confine tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Mais si on se mettait à discriminer les personnes fragiles, la Constitution française, l'esprit de la loi française est d'aider, d'accompagner les personnes fragiles, pas de les discriminer.
Le généticien Axel Kahn, qui par ailleurs préside la Ligue contre le cancer, il était l'invité d'Europe Midi.
Salomé Legrand, bonsoir, on se tourne vers vous, on entend Axel Kahn parler de discrimination. Que dit le droit véritablement? On pourrait prendre une telle mesure visant les personnes âgées?
Eh bien, en temps normal, quand c'est le droit constitutionnel classique qui s'applique, ça paraît impossible. Ce serait effectivement une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et une discrimination. Mais nous ne sommes pas en temps normal, nous sommes sous un régime juridique d'exception, l'état d'urgence sanitaire, qui permet au président et au gouvernement d'édicter des mesures exceptionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux conditions pour limiter une liberté fondamentale. Il faut que les atteintes qui y sont portées soient à la fois nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. Et c'est le juge administratif qui arbitre. Concrètement, pour contester une telle décision, il faudrait prouver que ce confinement rallongé pour les personnes âgées n'est pas nécessaire pour préserver leur santé. D'après nos informations, des associations étudient déjà la possibilité d'un recours si la mesure était prise. Mais les juristes que j'ai pu consulter sont réservés sur ses chances d'aboutir. Cela voudrait dire que le juge administratif va à l'encontre d'un gouvernement dont la décision est censée être éclairée par de nombreux experts. Jusqu'à présent, ce n'est pas ce qu'on observe de la part du Conseil d'État.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1, et on le redit, hein, pour l'instant c'est une recommandation. Le gouvernement décidera ensuite, il doit annoncer son plan de déconfinement d'ici 15 jours.
Et suite d'ailleurs du débat demain matin sur Europe 1 dans la matinale de Mathieu Béliard, rendez-vous pris à 7h40 avec Michel Delaunay, ancienne ministre en charge des personnes âgées, et le journaliste aussi Charles Biétry.
Et puis il y a une autre question médicale qui émerge. Peut-on attraper plusieurs fois le coronavirus ? Le docteur Jimmy Mohamed est avec nous comme chaque soir pour nous éclairer. Bonsoir docteur.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.
C'est encore plus nécessaire ce soir. On pensait les personnes guéries immunisées. Eh bien, il semble que ce ne soit pas si clair. C'est ce que révèle là aussi le professeur Delfrécy qui parle de nombreuses récidives. Ça veut dire qu'on peut retomber malade ?
Eh bien écoutez, il semblerait que ce soit une des pistes, et c'est quelque chose que je constate aussi, des gens qui ont développé le coronavirus qui, 2 à 3 semaines après, recommencent un syndrome grippal un peu fébrile, un peu étrange, qui semble moins intense, mais qui est quand même présent. Alors certains malades sont en cours de test, certains on retrouve du coronavirus pour la deuxième fois et on ne sait pas si c'est une réinfection ou une réactivation du virus. Les pistes ne sont absolument pas claires. Néanmoins, ce qu'on pense, c'est qu'une fois que vous avez attrapé le virus, votre corps va donc stimuler des anticorps qui vont reconnaître le virus les fois où vous allez peut-être le rencontrer une deuxième fois, raison pour laquelle on peut penser qu'il y aurait quand même un peu d'immunité, mais on ne sait pas si celle-ci est durable dans le temps. Et si nous sommes tous égaux face à la maladie, est-ce qu'une forme mineure aura autant d'anticorps qu'une forme sévère en réanimation ? Des études sont en cours et il va falloir peut-être attendre des semaines, voire des mois, avant d'avoir une réponse très claire.
Merci docteur Jimmy Mohamed, même si effectivement on voit qu'on n'est pas sorti d'affaire. On va y revenir aussi dans les grandes voies. Vous docteur, on vous retrouve demain dans ce journal de 18h et puis dès 15h pour l'émission Santé sans rendez-vous sur Europe 1 avec Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h11, la suite du journal avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
C'est une mesure qui va nous aider à garder nos distances quand on fait ses courses. Le paiement sans contact va bien passer de 30 à 50 euros. Emmanuel Dutheil, exactement comme vous nous le révéliez déjà la semaine dernière.
Oui, mais ça y est, la décision a été prise et je peux même vous dire ce soir que ce plafond va passer à 50 euros le 11 mai, comme par hasard, le jour de la date où le déconfinement va progressivement commencer. Alors pourquoi il a été décidé de relever ce plafond du paiement sans contact ? Eh bien, c'est encore une fois une des conséquences du coronavirus. Depuis le début de cette crise, on se rend compte qu'on utilise beaucoup moins de monnaie. De nombreux commerçants, y compris par exemple des boulangers, aujourd'hui demandent à leurs clients de payer via le paiement sans contact. Deuxième raison, vu qu'on va moins souvent faire les courses, on fait de plus grosses courses. Du coup, le plafond de 30 euros était aujourd'hui considéré comme trop limité. Donc poussé notamment par les pouvoirs publics et par Bercy, les banques ont lancé de grands tests techniques pour voir si c'était possible, puisqu'il va par exemple falloir réussir à adapter nos cartes bancaires à distance. Et donc oui, ce sera fait. Et donc le plafond du paiement sans contact passe le 11 mai à 50 euros.
Les informations d'Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Emmanuel, on vous retrouve bien sûr dans les grandes voies. Le confinement qui met de nombreuses familles dans des situations pour le moins compliquées. Hein. Chute des revenus, dépenses supplémentaires, puisque toute la famille mange 3 fois par jour à la maison.
Et, oui. Et d'où l'aide d'urgence qui sera versée aux familles les plus démunies. Et à Marseille, le maire Jean-Claude Gaudin va même plus loin. Il va redémarrer les cuisines des cantines scolaires. 5000 repas seront ainsi distribués quotidiennement à des familles. Et cela d'ici une dizaine de jours, Nathalie Chevance.
Oui, le temps pour la Sodexo de remettre en marche sa cuisine centrale ici à Marseille, une véritable petite usine, de rappeler le personnel, de mettre en place les mesures sanitaires et le réapprovisionnement. Entrée, plat, dessert, 5000 repas frais seront donc fabriqués chaque jour, payés par la ville et distribués gratuitement aux personnes les plus démunies, des étudiants, des chômeurs, des personnes seules, ciblées par les associations, ce dont se félicite Florent Houdemont pour la Fondation Abbé Pierre.
Il était tout à fait temps parce qu'effectivement, on remonte, nous, de partout. d'énormes besoins alimentaires. Il faut bien comprendre qu'avec le confinement, c'est tout un pan de l'économie qui est à l'arrêt. Beaucoup de gens qui étaient en intérim, en fin de CDD, et aussi parfois l'économie informelle, ce qu'on appelle le travail au noir, qui se sont brutalement arrêtés. Beaucoup de ménages qui avaient à peine la tête hors de l'eau ont basculé dans la très grande précarité, avec des vrais cas de gens qui n'ont plus à manger. Donc les besoins sont immenses. Il est encore difficile de les chiffrer, mais très clairement, c'est une bonne nouvelle. On espère que ce sera suffisant. Il était temps de faire quelque chose sur cette ville.
Un dispositif qui vient s'ajouter à celui visant les quelques 2000 enfants qui bénéficiaient de la cantine gratuite. Depuis le confinement, c'est un chèque de 100 euros qui est distribué pour compenser, sachant que dans certaines familles, le déjeuner à la cantine constitue le seul repas équilibré de la journée. Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. On va vous retrouver vous aussi dans les grandes voies à 18h30.
Autre mesure annoncée aujourd'hui, EDF ne facturera pas de pénalité en cas de retard de paiement, et cela jusqu'au 1er septembre. EDF qui va proposer d'étaler les échéanciers à ceux qui en ont besoin. Et puis en Ile-de-France, la région va rembourser 25 euros de plus aux abonnés des transports publics pour couvrir la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai.
Amazon, on en parlait depuis quelques jours déjà. Amazon, ça y est, a tout arrêté en France. Ses 6 entrepôts logistiques sont stoppés. Le temps, cette fois, d'une opération de nettoyage.
Et le temps aussi de réévaluer les mesures de sécurité sanitaire pour les employés, comme l'exige la justice. Date de réouverture inconnue, on y reviendra dans le journal de 19h. Et puis on vous parlait des hôteliers hier soir sollicités pour héberger des malades du Covid-19 mis en quarantaine. Eh bien ça y est, ça va commencer. Le groupe Accor annonce que cela débute dès ce soir dans 300 de ses établissements.
Aux États-Unis maintenant, un nouveau et terrible record enregistré, presque 2500 morts en à peine 24 heures. Mais le président américain, Donald Trump, se montre bel et bien optimiste.
Il estime que les États-Unis ont probablement passé le pic et il va dévoiler ce soir son plan pour redémarrer l'économie américaine. Le bilan là-bas a dépassé les 30 000 morts et plus de 22 millions d'Américains se sont inscrits au chômage, et cela en l'espace de 4 semaines seulement.
Et le gouverneur de New York annonce ce soir que le confinement est prolongé dans la ville de New York au moins jusqu'au 15 mai. On va terminer, Sébastien, avec vous et avec une belle initiative aussi. On aime les mettre en valeur, on le fait quotidiennement. Alors voici notre héros du jour.
Oui, je vous présente Roméo, un collégien parisien de 14 ans. Signe particulier, il sait comment utiliser une imprimante 3D. Voilà, c'est déjà ça. Et du coup, il a transformé sa chambre en sorte d'usine à masques. Sophie Echen, il a déjà fabriqué des centaines de visières pour les soignants.
Ce bruit que vous entendez, c'est la mini-usine actuellement installée dans la chambre de Roméo. Il est en troisième et chez lui, ce n'est pas une, mais 5 imprimantes 3D qui tournent de 10h à 22h pour fabriquer des masques de protection.
C'est une sorte de serre-tête dessus, donc il y a une feuille plastique transparente de reliure A4 qui va se clipper sur le serre-tête et donc après ça fait une sorte de visière.
Ce jeune passionné de nouvelles technologies en a déjà fabriqué 400 pour les personnels soignants.
C'est léger, confortable et c'est beaucoup mieux que leurs lunettes qui fait de la buée et ça protège des potions, des projections.
Du haut de ses 14 ans, Roméo est donc à la tête d'une véritable chaîne de production sous les yeux admiratifs de sa mère Julie, qui ne s'attendait pas à un tel résultat quand il lui a demandé sa première machine il y a 3 ans.
Clairement, la première réaction que j'ai eue, c'est « mais enfin, qu'est-ce que tu vas en faire de ton imprimante 3D ? Qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir ce type de machine dans un appartement ?» Évidemment, depuis 15 jours, elle tourne 10-12 heures par jour.
Et en tout cas, les soignants de l'hôpital à côté de chez eux sont ravis. « Ça nous sert tous les jours », m'a dit une infirmière épatée par l'efficacité de cet adolescent.
Et voilà, c'est ces visières qui recouvrent tout le visage.
Et oui, qui protègent bien les yeux, notamment. Voilà, ça vient compléter. Alors avec le masque et la visière, on sera bien, hein, Sébastien, on ne pourra pas se reconnaître. Merci à vous. À tout à l'heure, 18h30.